Donc effectivement, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, donc les réformés et les luthériens qui se sont rassemblés il y a peu. J'ai eu courtement un ministère pastoral à Marseille, de paroisse donc. J'ai été très longtemps dans la communauté du Chemin Neuf, après, voilà, en disponibilité. Je me suis mariée, on a eu 5 enfants. Et puis j'ai repris un ministère, mais du coup qui était un ministère, ce qu'on appelle de bibliste, mais dans l'Église réformée de l'époque, le ministère de bibliste, c'était vraiment redonner la lecture des textes à tout un chacun. C'est-à-dire ne pas lire à la place des gens, mais permettre à tout un chacun de savoir qu'il a de quoi être en vis-à-vis de ces textes et s'en nourrir, et qu'ils deviennent vivants et portant des fruits à la fois personnels et au-delà de la personne. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une joie, parce que quand je lis des textes bibliques avec des personnes, à chaque fois le texte biblique m'est aussi renvoyé. Et je crois qu'ensemble, nous allons peut-être, même si les textes que je vais vous proposer sont des textes très connus, on va peut-être, voilà, ils vont peut-être résonner à nos oreilles de manière un peu nouvelle et j'espère, je ne sais pas s'il faut dire tonifiante, fructueuse en tout cas. Voilà, en ce moment, depuis 4 ans, j'ai maintenant un ministère d'aumônerie des hôpitaux. Et j'habite à Lyon, donc c'est un ministère des hôpitaux publics sur Lyon. Oui, donc les deux textes que je vais vous proposer, le premier aujourd'hui, ça va être de revenir sur les textes de la Genèse. Je suis désolée, mais je pense que ça vaut la peine. En particulier le texte qui nous parle du péché, parce que c'est peut-être important qu'on réalise un peu ce qu'il y a par derrière. Comme vous, j'ai été, ou comme toi, j'ai été très, très impressionnée que soit le texte d'Élie aujourd'hui. J'avais entendu le texte d'Évangile, de la liturgie catholique, mais pas le texte de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Et c'est vrai que on va s'exercer à une écoute fine. C'est vrai que certains traduisent la voix d'un fin silence. Quand enfin Élie est en présence de Dieu, entend une parole distincte. Et je pense que c'est un des critères essentiels pour lire les textes bibliques. C'est de savoir qu'ils sont là pour nous faire passer de l'orage, des manifestations très fortes, de ce qu'on a dans la tête quand on pense à Dieu. Voilà, on a des images très fortes et très puissantes, et petit à petit, de venir découvrir quel est le Dieu d'Israël, quel est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est un Dieu qui parle de manière fine. Donc au travers de ces textes, on va essayer d'entendre cette voix-là. Donc aujourd'hui sur la Genèse, et demain je vous proposerai la lecture du grand texte qu'on envoie régulièrement contre les personnes homosexuelles, c'est-à-dire le texte de Romains, de Paul, la lettre de Paul aux Romains. Quand vous ouvrez une Bible, ce sont donc quasiment les premiers livres sur lesquels vous tombez. Mais ce ne sont de loin pas les premiers écrits. Et puis le chapitre 1 et le chapitre 2 ont été écrits à des périodes différentes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir que la question de comment s'est passée la création n'a pas été une question en tant que telle dans le peuple d'Israël. Ce qui a été la première chose, ça a été que Dieu est celui qui a fait sortir une masse d'esclaves et qui en a fait un peuple, et un peuple en alliance. Certains disent de la servitude au service. C'est ce mouvement-là qui a été premier dans les textes bibliques en Israël. Et la question de la création est venue plus tard. Donc, Genèse 2, le texte que vous avez là, c'est la période de la sagesse, où la sagesse a pu se développer au moment de la royauté. Donc, bien longtemps après, où il y a eu des écoles de sagesse. Et puis le texte de Genèse 1 est venu encore plus tard, au moment où le peuple judéen avait été pour une partie envoyé en exil à Babylone. Il se trouve que Babylone avait un grand récit de création. Et que chaque année, on remettait en scène ce récit de création primordiale en priant et en espérant que l'année redémarrerait avec son cycle de pluie, de soleil, qui permettrait à la vie de pousser, de naître, ou de continuer. Et c'est face à ces grands textes mésopotamiens que a surgi le texte de Genèse 1, où on peut voir des choses un peu analogues entre ce qui était entendu et célébré à Babylone et puis ce qui est écrit dans ce livre de la Genèse. Pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement parce que ce qui est intéressant, c'est que pour les Hébreux, ça a été une confession de foi, en fait. C'est pas un retour en arrière, mais c'est une manière de dire qui est ce Dieu de l'Alliance qui les accompagne. Et c'est la première fois dans la pensée du peuple que l'on découvre avec force que Dieu non seulement est créateur dans le passé, à l'origine, mais qu'il est créateur encore aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis, c'est comme une confession de foi, parce que quand on lit le chaos initial, le tohu-bohu initial, on peut très bien l'entendre comme le tohu-bohu politique, social, qu'est en train de vivre le peuple, qui n'a plus aucune identité en tant que peuple. Et comment Dieu, à partir de là, crée, sépare la lumière des ténèbres, que sa première parole, c'est que la lumière soit, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc je ne vais pas reprendre tout le texte, mais c'est intéressant d'essayer de prendre ce texte comme une confession de foi. Donc ça, c'était très rapidement pour parler du texte de Genèse 1. Ce que j'aimerais dire aussi sur ces récits de la création, c'est que ce sont des récits qui viennent relire le fond de l'existence. Il faut les relire à rebours. Ce ne sont pas des écrivains qui se sont mis devant une feuille en disant comment a commencé le monde et comment ça a continué. C'est une sorte de relecture qui va vers la source même de l'existence. On dit que ces textes sont mythiques, pas du tout dans le sens où ils sont inventés, mais quand vous interrogez un Africain, par exemple, quelqu'un qui est d'Afrique, sur les mythes, c'est vraiment ce qui dit la vérité de l'existence dans toutes les périodes si différentes de l'histoire. Donc on est dans ces textes qui disent le fondement même de l'existence. Et on va voir que c'est intéressant de réaliser cela. Puisque le texte de Genèse 2 part des difficultés à vivre et des difficultés de relation pour essayer de remonter et dire qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui fait que la vie, voilà, je passe à l'autre, est bonne. Elohim dit : faisons un Adam à notre image et ressemblance. Elohim créa l'Adam à son image, à l'image. À l'image d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et donc, on passe quelques versets. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla de ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon, c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre, il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme : tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit : il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria : voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi, l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme : vraiment, Dieu vous a dit : vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent : nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme : non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Voilà, donc vous voyez que ce texte qu'on connaît bien, quand on le lit rapidement, il peut vous assassiner les femmes, il peut mettre devant vous un Dieu jaloux pour qui c'est important de tenir l'homme sous une domination, lui étant le sachant et l'homme étant la personne qui ne doit pas connaître. Donc vous voyez toutes ces... voilà. Et puis évidemment, vous avez dû entendre que tout couple est formé d'un homme et d'une femme, point barre, et c'est pas autrement. Donc ça, c'est une lecture grossière qu'on peut faire du texte. Mais on va croire que ceux qui ont travaillé ce texte, porté ce texte, étaient des personnes tout aussi intelligentes, si ce n'est plus que nous. Et on va essayer donc d'entrer dans la finesse de ce récit.
Moi, je suis frappé, parce que c'est la première fois que je m'aperçois de ça. Dieu dit, si vous mangez de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, du jour où tu en mangeras, tu devras mourir.
Tu devras mourir, oui.
Ben, en fait, dans le texte, il ne meurt pas.
Exactement.
Par contre...
Donc, je ne sais pas si vous entendez tous, dans le texte, il ne meurt pas, effectivement.
Et par contre, le serpent dit « Vos yeux s'ouvriront », et dans le texte, il est dit après « Leurs yeux,
les yeux s'ouvrent ». Donc, incroyable. Le serpent dit la vérité et Dieu raconte des bobards. Non, vous voyez que c'est intéressant. Donc, c'est, entre autres, on peut se dire que le texte travaille peut-être la question de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire que de mourir? Cette parole, vous mourrez. Parce que de fait, on voit que ça n'arrive pas. Mais ça va aussi travailler la question des yeux qui s'ouvrent. Qu'est-ce que ça veut dire, ces yeux qui s'ouvrent? Sur quoi ils vont s'ouvrir? Voilà. Donc on va essayer d'approcher de plus près, effectivement. C'est très très juste ce que vous dites. Le premier dialogue a lieu entre l'homme et puis, enfin la femme d'ailleurs, et un animal qui n'est pas n'importe quel animal, c'est le serpent, celui qu'on ne voit pas venir, qui n'a pas de pattes, qui mue, qui, enfin, symboliquement, c'est un animal qui a fait toujours beaucoup... fantasmer n'est pas le mot, mais réfléchir l'homme. La tradition juive ne va pas séparer les deux récits de création. Pour eux, il n'y en a qu'un seul. Et donc, l'homme est créé mâle et femelle, androgyne. Et qu'au chapitre 2, il va y avoir coupure entre le côté de l'homme et le côté de la femme. Vous appuyez sur quelque chose qui est très intéressant parce que la tradition chrétienne va vraiment insister sur le fait que c'est la femme qui a fauté. Dans la tradition juive, pas du tout, on vous parle du péché d'Adam. Donc je vais vraiment reprendre la parole. Et donc, je vais moi-même lancer certaines pistes et, au passage, reprendre certaines de vos remarques. La première, Dieu dit, faisons l'homme. Dans la traduction que je vous ai lue, je vous ai fait entendre Elohim. El, c'est comme Allah, c'est Dieu. Elohim, c'est un pluriel. Donc on peut déjà comprendre par la façon dont le peuple nomme Dieu, par un mot pluriel, qu'il y a quelque chose d'une pluralité que l'on reconnaît en Dieu. Et ce « faisons » le fait vraiment entendre. On ne sait pas d'où ça vient. Les commentaires sont multiples. Je ne vais pas trop m'y arrêter, mais dit Dieu s'adresse à des anges, ou Dieu prend à partie certaines personnes. L'histoire des anges, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à quatre anges, et il y en a trois qui lui disent « surtout, ne fais pas cette bêtise-là ». Ne crée pas l'homme. C'est l'ange de la vérité. Tu verras, il va te mettre le bazar. Enfin, je parle plus en termes théologiques là. Et le seul qui est partant, c'est l'ange de la miséricorde. Voilà. Tous les autres, l'ange de la justice dit surtout pas. Donc c'est intéressant comme tradition. Mais bon, on est obligé d'entendre que les anciens, tout d'un coup, à ce moment du geste de la création de l'homme, du mâle et femelle, là met un pluriel. Comme si effectivement cet acte posait une pluralité, un Dieu qui ne peut pas se restreindre à une caractéristique ou une autre. Un Dieu où des opposés peuvent cohabiter. Enfin, des... voilà. Pour l'instant, j'en dirai pas plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la parole fait entendre « Faisons un Adam, un homme, à notre image et ressemblance. » Dieu créa donc l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc tout d'un coup, on entend là aussi une ouverture qui n'était pas annoncée d'emblée. Donc c'est intéressant, comme si la création provoquait forcément quelque chose qui devient pluriel et différent. Et puis le point sur lequel je voulais m'arrêter aussi, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'au verset 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. » Et quid de la ressemblance. Vous voyez, c'est un tout petit détail du texte. Mais c'est un détail qui peut être... extraordinaire d'ouverture. En hébreu, vous avez deux mots différents. Alors, je ne rentrerai pas dans la signification des termes hébraïques, mais vous faire entendre, il y a quelque chose qui est accompli, et il y a quelque chose qui reste à accomplir. On peut l'entendre comme ça. Et en général, les exégètes l'entendent comme ça, les rabbins aussi. C'est-à-dire que l'homme... multiple, en dialogue, en différence, est créé à l'image de Dieu. C'est pas chaque homme qui est image de Dieu, c'est une pluralité qui est image de Dieu. Mais que très curieusement, il n'est pas dit que nous sommes à sa ressemblance. Et que ça, c'est peut-être un chemin qui s'ouvre. Vous voyez comme c'est intéressant de faire attention à la finesse du texte, parce que bien souvent, certaines lectures qui nous coincent, je dis nous tous, sont celles qui disent « tout a été posé au départ par Dieu ». Il n'y a plus qu'à se être à l'image, être correspondre à ce qu'il a posé. Or, le texte est bien plus fin que ça. Dieu a posé effectivement au départ, du moins les textes témoignent d'un Dieu qui pose au départ l'image, mais qui ouvre tout ce travail qu'il ne fait pas lui et que nous avons à habiter pour être à sa ressemblance. Et ça, c'est vraiment une clé de lecture des textes bibliques qui est capitale. C'est-à-dire à la fois Dieu pose quelque chose et en même temps, il n'a pas figé, bouclé. En créant, il ouvre un espace. Et il ouvre une dynamique de vie sur laquelle, dans laquelle mâle, femelle et Dieu vont être impliqués, avec les, d'ailleurs la nature et les oiseaux, et ça on pourrait aussi en dire. Voilà. Donc c'est la première chose que j'aimerais faire entendre, c'est tout cet espace ouvert dans la création. Quelque chose est posé et en même temps il y a toute une dynamique de liberté profonde dans laquelle s'inscrit l'ensemble de la création. Et là vous n'avez pas ce qui va parachever la création dans ce premier chapitre, c'est le Shabbat. C'est-à-dire ce temps où l'homme réfléchit devant Dieu, prend en main l'alliance. Alors je vais passer maintenant au chapitre 2. Donc vous avez peut-être noté qu'il commence par « il n'y avait pas, il n'y avait pas, Dieu n'avait pas fait pleuvoir, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol ». Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Donc là, on entend comme un témoignage des humains qui reconnaissent bien cette fragilité. C'est la poussière du sol dont est fait l'homme. On retrouve ça en latin, hein, humus, humilité, qui vient bien de la terre. Et ce n'est pas suffisant pour en faire un être vivant. Il lui insuffle dans ses narines l'haleine de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc première fois qu'on entend ce mot « être vivant ». Et vous entendez peut-être aussi l'écartèlement dans lequel le texte va mettre l'humain. À la fois poussière et à la fois vivant du souffle même de Dieu. Donc une très grande force et une très grande fragilité. Les deux à la fois. Alors, je passe et j'en reviens effectivement, j'en viens tout de suite aux arbres qui sont notés, et deux arbres. Alors, simplement, je note avec vous qu'au verset 9, les deux arbres qui sont nommés, c'est donc celui de la vie en premier et celui de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. On y reviendra. Je note avec vous aussi que le texte place l'arbre de vie au milieu du jardin et ne définit pas de place particulière pour l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et j'en viens à la première parole qui se fait entendre dans ce chapitre-là. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme. C'est vraiment le terme de la loi. Pour les Juifs, c'est la première loi, parole de loi. Tu pourras manger de tout arbre du jardin. C'est quand même assez magnifique de se redire, c'est pas toujours le discours que nous disons, nous, pasteurs, prêtres, etc., que la première parole, le premier ordre, est un ordre positif. Tu mangeras de tous les arbres. Le problème, c'est qu'il va y avoir un sauf. Voilà, ça revient assez souvent dans les textes bibliques. Tout sauf. Et qu'effectivement, il y a une parole d'interdiction très très forte concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut l'entendre comme ça dans une première écoute, soit comme l'arbre qui permet de discerner entre le bien et le mal, ce qui est quand même assez intéressant. Donc la connaissance dans le sens, discernement, ou bien connaître le bien et le mal, quand vous prenez deux opposés comme ça, ça veut dire la totalité de la connaissance. Une connaissance absolue, sur tout et de tout. Et de fait, c'est lié à un avertissement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, mourir tu mourras, littéralement dans le texte. Donc on vous traduit, tu devras mourir. C'est un redoublement d'une annonce de mort et de mort effective, qui est un danger. Donc pour l'instant, on ne va pas aller plus loin. Et puis je reprends le fil du texte. Le Seigneur dit, il n'est pas bon, c'est là où on l'entend, pour l'homme d'être seul. Donc il y avait déjà des manques, mais cette fois-ci, on va toucher au manque d'être sans vis-à-vis. Et je vais prendre simplement ce qui est dit, je veux lui faire une aide qui lui soit accordé, dit le texte. Ce mot de « aide » est bien gentil dans la traduction. Et du coup, on peut comprendre qu'un bœuf peut bien aider l'homme. Hein. Donc on peut comprendre que Dieu essaye avec les animaux. En fait, le mot est beaucoup plus fort. C'est « secours ». C'est le mot qu'on trouve... la plupart du temps, c'est là ces emplois les plus fréquents. Dieu vient à mon secours. Donc il s'agit vraiment pour l'homme d'une question de salut, de ne plus être seul. Là encore, vous pouvez entendre une question de vie et de mort, à la limite. Je vais lui faire donc un secours qui lui soit accordé littéralement comme un vis-à-vis. Et certains traduisent comme un contre. Un vis-à-vis, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être contre toi, en face de toi. Donc c'est intéressant d'entendre les termes mêmes. Comme s'il y avait quelque chose d'une différence et d'une altérité, je prononce exprès ces mots, puisque souvent c'est quelque chose qu'on va vous renvoyer dans le vécu de l'homosexualité. Est-ce qu'on n'est pas dans le même? Est-ce qu'on prend vraiment au sérieux la différence, l'altérité? C'est vrai qu'est posé dans ce texte, vraiment, cette question d'une aide et d'une aide en face, qui peut contrer. Et de là va venir le geste sur lequel vous vous interrogiez, le fait que Dieu, n'ayant pas trouvé, et c'est très intéressant de voir un Dieu qui tâtonne, parce que ça fait entendre ce qu'on entendait au chapitre 1, c'est-à-dire que tout n'est pas fini. Et que Dieu, à partir de ce qu'il a posé, on peut le lire comme ça, et bien petit à petit, il s'adapte. Et donc il commence par faire venir tout le bétail, tous les oiseaux, tous les champs, Et alors, très curieusement, au passage, hein, je vous fais simplement entendre, il donne à l'homme de nommer tous ces animaux, et le seul nom qu'on entend, c'est « être vivant ». C'est ce qu'il était, lui. Bon, là aussi, on pourrait réfléchir à cette manière de voir en miroir. Voilà, il constate que ce sont des êtres vivants. Mais peut-être qu'il n'a pas encore réalisé à quel point lui est vivant et qu'il ne peut le réaliser que lorsqu'il aura cette aide, ce secours, qui sera en vis-à-vis. Alors, le Seigneur fit tomber une torpeur sur l'homme. C'est un mot très fort, ce torpeur. C'est en même temps une sorte d'angoisse. Et vous posiez la question, pourquoi prendre la femme de la côte? Mais parce que vous avez justement ce jeu de mots en hébreu, côte, côté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être non seulement à côté, mais aussi en vis-à-vis. Voilà. Et qui va faire que l'homme, symboliquement, ne va plus être tout entier. Il va lui manquer. On pourrait le traduire autrement par un jeu de mots. L'homme ne va plus être seul, mais il ne va plus être le seul. Vous voyez, des fois, on aimerait bien être non accompagné de gens différents qui vous pourrissent la vie parce qu'ils vous obligent de bouger et qui ne sont pas exactement pareils que nous. Voilà. Donc, je pense que vous avez toute cette subtilité-là dans le texte. Dans cette histoire de côte qui va manquer, et de transformation à partir de quelque chose de l'homme. Vous voyez, cette fois-ci, il y a vraiment une œuvre de création. C'est à la fois la même chose et pas la même chose. Le Seigneur Dieu transforma donc le côté qu'il avait pris à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria: voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Juste une petite remarque sur cette phrase qui est magnifique, mais qui en même temps ramène tout à l'homme, si vous regardez de très très près. C'est-à-dire qu'il ne voit dans celle que Dieu lui amène que lui-même, sa propre ressemblance. Voilà. Pour l'instant, il est fasciné de voir effectivement quelqu'un qui lui ressemble, même si dans la nomination, il va y avoir une toute petite lettre en plus. Ish pour l'homme, Isha avec un petit he, qui est une consonne un peu faible, pour la femme. Alors, pourquoi cette insertion, qui effectivement est complètement anachronique, vous avez absolument raison, parce qu'il est question que de tous les deux, aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme? Je vois vous secouer la tête. Une des choses que cela fait entendre quand même, c'est que quelque chose qui n'était pas lié d'emblée devient plus important que l'origine qui vous a fait naître, puisqu'il faut quitter pour ne faire plus qu'une seule chair. Donc il y a un enjeu aussi de savoir quitter pour pouvoir vivre une alliance. Ça, on peut l'entendre. On peut entendre aussi que dans toute alliance, et là moi je vais exprès élargir, dans toute alliance, qu'elle soit homme-femme ou qu'elle soit homme-homme ou femme-femme, dans toute alliance, il y a de l'ordre de la création. Tout couple est de l'ordre de l'inconnu. Donc on n'est pas dans une répétition, là encore, vous entendez quelque chose de la profondément de la création. Tout couple n'est pas là pour répéter quelque chose du passé, mais là pour créer quelque chose, pour prolonger la création. Voilà. Je ne peux aller que jusque-là. Je pense que le texte veut dire encore beaucoup d'autres choses. Mais comme vous, pour moi, ça reste un peu une question, cette extrapolation temporelle. Si ce n'est que ça vous permet de bien réaliser que ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte, mais sous forme d'histoire, on vous dit ce qu'est la vie dans son essence et dans sa naissance. Alors arrive effectivement le premier dialogue, comme si la parole de Dieu, elle s'était fait entendre quand même, hein, mais il n'y avait eu aucun dialogue, il y avait eu une première parole, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Mais ça n'avait entraîné aucun dialogue. Tandis que là, curieusement, il va y avoir le premier dialogue, et vous avez tout à fait raison, ce n'est pas avec Dieu. Peut-être que ceux qui ont porté ce récit, je dis porté parce qu'il y a une tradition orale, et ce sont des textes qui se disent de génération en génération avant qu'on les mette par écrit, ceux qui ont porté ce récit, peut-être se sont rendus compte que c'est difficile de parler avec le Dieu, ou du moins c'est pas si évident que ça, de parler d'emblée avec le Dieu de la révélation. Et peut-être qu'on, justement, on parle d'abord avec nos idoles. Pourquoi je dis ça? Parce que le serpent, en même temps, était divinisé en Canaan. Comme c'est, justement, je vous disais, un animal atypique qui n'a pas de jambes, qu'on n'entend pas venir, contrairement à la plupart des animaux. En plus, on voit sa mue. Donc, dans l'imaginaire, il représente l'immortalité. C'est pour ça aussi, hein, c'est le sigle de la médecine. Enfin, voilà. Donc, peut-être qu'il y a par derrière ce récit aussi le fait de dire on entre bien plus facilement en dialogue avec nos idoles, c'est-à-dire nos représentations de Dieu, qu'avec le Dieu vivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte, et je vous l'ai mis en note, va jouer sur un jeu de mots. Parce que j'ai passé sous silence le dernier verset, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Là aussi, c'est très curieux que vous ayez ce mot de honte qui arrive, mais pour dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas là. Et effectivement, ce mot de nudité, le mot de nudité est très proche du mot astucieux qu'on utilise pour le serpent. Donc autour de la nudité va se passer quelque chose d'assez essentiel. Et la nudité, vous pouvez entendre que c'est aussi la fragilité. Quand on est à nu, l'autre, mis à nu devant l'autre, l'autre a un pouvoir sur vous. Donc c'est toute la question de la fragilité, de la limite qui est posée là et que peut-être, enfin même sûrement, le serpent va interroger. Et il va interroger, vous avez tout à fait raison, en pervertissant complètement, mais de manière très très forte, la parole de Dieu. Puisqu'il va dire, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Or, la parole de Dieu était à l'exact opposé. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. Et du coup, la femme va être obligée de réajuster cette parole. Alors, vous noterez la complexité du texte, puisqu'elle n'était pas là quand la parole a été dite, tel que le texte est construit. Donc on est sur ce qui a été rapporté et pas sur ce qu'on a entendu en direct. Elle va donc réagir. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Donc là, elle rectifie bien la parole. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Et là, vous voyez la toute petite nuance. La femme a changé d'arbre au milieu du jardin. Et c'est très intéressant parce que le texte disait que c'était l'arbre de la vie qui était au milieu. Et elle va mettre au milieu l'arbre de la connaissance. C'est pas du tout pareil de mettre au centre de l'existence la vie ou au centre de l'existence la connaissance. Comme une sorte de mainmise. Et la vie, on se laisse déborder par quelque chose qui nous précède, qui va au-delà de nous, et que nous, quelque part, connaissons jamais vraiment, tandis que mettre au centre la connaissance, c'est vouloir maîtriser quelque part. Vous entendez qu'il y a un écho avec la nudité, la fragilité. On peut entendre que derrière la nudité ou la fragilité, il y a quelque chose qui rejoint aussi accepter de ne pas tout connaître, de vivre sans savoir comment je vis. Ça va ? Alors je rajouterai une chose qui me paraît importante. Quand on lit le reste de la Genèse, on peut entendre cette histoire de la connaissance et de l'interdiction de manger de l'arbre d'une manière intéressante. Parce qu'en fait, on va réaliser que tout au long de la Genèse et puis après jusqu'à l'Apocalypse, nous n'arrêtons pas d'apprendre à connaître. La connaissance vient à partir de ce que nous apprenons. On ne la mange pas. Elle n'est pas innée. C'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. L'homme et la femme vont apprendre à vivre ensemble. Je vous ai dit, l'homme avait une phrase qui était quand même très étonnante. Elle est moi, en gros. La femme est moi. Donc il va falloir qu'il réalise que c'est pas tout à fait pareil, qu'elle est aussi différente. Et là, cet événement du fruit va lui faire rendre... Il va s'en rendre compte assez vite. Vous avez dans la fraternité Cain et Abel, les deux premiers frères, où le deuxième vient en continuité du premier et n'est qu'un souffle par rapport au premier. Et où quand Dieu va prendre le temps de regarder Abel, qui n'est que celui qui suit Caïn. Caïn va croire qu'il n'a plus d'existence. toute la fraternité qui va s'apprendre petit à petit avec Jacob et Ésaü, avec Joseph et ses frères, avec Moïse et Aaron. Bref, on se rend compte quand on lit les textes bibliques qu'on est sans cesse en train d'apprendre. Et on peut entendre, du coup, que cette interdiction de manger la connaissance, c'est-à-dire de vouloir absorber la connaissance sans que ce soit un processus qui s'inscrit dans notre vie, ça, c'est quelque chose de mortel. Et que s'il y a cette interdiction-là, c'est que la connaissance, on l'absorbe autrement qu'en la mangeant. C'est refuser le temps. Et c'est refuser l'histoire. C'est-à-dire l'histoire qui forcément va nous faire passer par des échecs, par des impasses, et qui va nous faire peu à peu discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. En soi, les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises, il faut discerner. Alors, quel va être l'effet? Parce qu'effectivement, le serpent va dire, va lui se poser comme quelqu'un qui sait. Vous noterez, c'est très intéressant. Non, vous ne mourrez pas. Donc, il se pose comme quelqu'un qui, comme il va dire de Dieu, est quelqu'un qui sait. Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant ce qui est bon. Littéralement, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon, etc. Elle en mange, elle en donne à son mari, qui, on le découvre, était là en fait. Quel est l'effet? Ils surent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes, et quand ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin, l'homme et la femme se cachèrent. Donc il y a peut-être une très grande finesse du texte qui est de dire, de fait, la mort n'est pas arrivée, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'alors que le texte avait dit « ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte », la honte déboule, enfin, arrive. Et la honte devant la nudité, c'est-à-dire devant la différence, effectivement, entre l'homme et la femme, mais aussi la nudité qui est le fait que je ne suis pas le tout. Et la nudité, vous pouvez en entendre nos limites, nos fragilités. Ce qu'il y a de terrible, et c'est là où nos anciens ont été géniaux, de dire c'est ça qui nous pourrit la vie. Et il n'est pas question de péché dans ce texte-là. Ce qui nous pourrit la vie, c'est que nous avons honte de la nudité. Honte d'être différent. Et du coup, certains en font une obligation, soyez comme moi, ou honte d'être différent, je ne suis pas digne, je ne suis pas comme les autres. Bref, toute la question de la rivalité, du pouvoir, de la domination. Donc c'est assez impressionnant que les anciens aient mis là ce qui blesse nos existences. Cette honte. Et du coup, pour sortir de cette honte, se cacher. Se cacher au maximum les uns devant les autres. Et se cacher devant Dieu. Et nous avons X manières de nous cacher. Et celle qui est dans la suite, hein, ça va être une manière de se cacher par la parole. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc je vais m'arrêter là-dessus. C'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, le texte va placer comme question existentielle dans ce dérapage, cette fêlure, je ne sais pas comment dire, la question existentielle que Dieu fait entendre à l'homme, c'est « Où es-tu ?» Et dans le chapitre suivant, juste après, vous allez entendre la deuxième question fondamentale, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Voilà, c'est assez génial que les textes comme ça nous mettent devant la grande question peut-être. Où es-tu ? Et qu'as-tu fait de ton frère ?